RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Pardon, je souris en même temps que je présente parce que je vois Zora. Alors qu'on est en pleine canicule, Zora, à chaque fois qu'elle rentre dans le studio, elle dit je suis gelée.
Je suis gelée. Le choc, il va être violent.
Nous sommes avec Zora Habitan, qui est intervenante en insertion professionnelle, Fatima Idounoua, la prof de français, Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Tiens, Didier, qui nous parlait des moissons et de la chaleur sur les bêtes, la canicule. Ça, on l'a mis en podcast. Donc, quand vous avez raté l'émission des GG, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr avec l'onglet des GG. Mais vous retrouverez justement les conséquences de la canicule sur l'agriculture, sur les animaux, sur les moissons, parce qu'on moissonne maintenant, donc en avance. Et ça, c'est Didier qui vous l'explique dans le podcast. En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Nous sommes avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et député de Moselle. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Alors, vous arrivez, costume, cravate, vous le gardez à l'Assemblée Nationale ou vous faites partie de ceux qui tombent la veste et tombent la cravate,
mettent le bermuda,
notamment cet après-midi?
Ouais, moi je suis un élu, je suis pas un acteur. Quand on est dans l'hémicycle, c'est climatisé, donc je comprends qu'on fasse de la com pour dire aux citoyens français, voyez, on est comme vous, on souffre de la chaleur, mais c'est pas vrai. Vous voyez, c'est comme ici, c'est climatisé, on a beaucoup de chance, ce qui nous permet de faire notre travail, parce que quand il fait 32 degrés dans une pièce, on bosse pas bien. Et c'est le message inverse, moi, que j'ai envie de lancer aux Français, c'est que vous aussi, vous méritez de travailler dans des bonnes conditions, de vivre dans des bonnes conditions. Nos écoliers, nos étudiants méritent d'aller à l'école, évidemment, pour apprendre dans des conditions acceptables, et donc avec la clim. Et puis nos anciens doivent être protégés de ces chaleurs qui, souvent, ont des conséquences terribles sur leur santé.
Alors, voilà. C'est quoi ce plan clim qui vous oppose d'ailleurs à l'opposition de gauche? Qu'est-ce que c'est que ce plan climatisation? Comment vous le feriez, vous le lanceriez si vous étiez au pouvoir?
D'abord, c'est une urgence, parce que chaque année, à chaque fois qu'il y a une vague caniculaire, il y a des milliers de personnes qui décèdent, les plus fragiles, les plus jeunes, les plus anciens et les malades. Et je pense que le prix de l'écologie ne peut pas être la vie humaine, ni même une espèce de théorie que rien ne prouve que la clim serait polluante. Vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous sommes moins bien équipés en clim, à peu près la moitié moins que nos voisins du sud de l'Europe, et 4 fois moins que nos amis américains ou japonais. Donc soit la Terre entière a tort et nous on a raison, soit on est en retard. Moi je crois que c'est la deuxième hypothèse. Donc il faut un grand plan clim, c'est-à-dire que l'État lui-même doit investir dans la climatisation des bâtiments qui dépendent de lui, et puis avoir au sein d'un plan qu'on appelle 100% Rénov, des prêts à taux zéro pour les particuliers qui veulent s'équiper de climatisation. Une fois encore, la clim, c'est permettre à chacun de travailler, d'étudier, de rester paisiblement chez lui sans souffrir d'une chaleur excessive.
Non, mais ça veut dire que vous financez les installations de climatisation dans les bâtiments administratifs qui dépendent de l'État, mais pour les particuliers, c'est pas l'État qui va financer l'installation de climatisation des particuliers.
Non, il y a des aides. C'est un prêt à taux zéro pour que ceux qui veulent climatiser leur appartement puissent le faire. Prêt à taux zéro, ça veut dire un coût minime pour l'État, mais ça veut dire un vrai coup de pouce pour les particuliers, avec une urgence. Bien sûr, ce sont les écoles, les EHPAD,
mais là, les écoles,
et les
c'est
hôpitaux.
Pas vous. Les écoles, ce sont les alors c'est toujours pareil, on le rappelle. Les écoles primaires, ce sont les municipalités. Oui. Les collèges, ce sont les départements.
Exactement.
Et les lycées, les régions. Pourquoi est-ce qu'on a rien fait? Pourquoi est-ce qu'on est en retard, en fait?
Bah, écoutez, parce que je crois qu'on est victime d'une idéologie, l'idéologie de la famille Pierre à feu, que sont les Verts en France, qui pensent que à chaque fois qu'on retourne à l'âge de pierre, eh bien on avance et on fait un progrès pour la nature. C'est faux. Et ils ont mis dans la tête d'un certain nombre de
décideurs. Mais les Verts, ils n'ont jamais été au pouvoir.
Non, mais ils ont été
en coalition.
Ils ont été la variable d'ajustement de certains nombres de majorités, et puis surtout, ils ont été des dictateurs de la pensée en énonçant ce qui était le bien et ce qui était le mal, en tétanisant, en stérilisant un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, pas nous. Voilà, nous l'écologie punitive qui ne sert à rien, eh ben c'est pas notre truc. L'écologie qui améliore la vie des gens et qui prend des vraies mesures pour changer les choses, ça.
Mais est-ce
pour
que vous êtes climato-sceptique? Est-ce
pas
que vous
une seconde.
On met de la clim et puis les îlots de chaleur, on s'en fiche. Le réchauffement climatique,
non,
aujourd'hui
attendez,
on s'en fiche.
Écoutez,
allez, la clim, c'est la solution à tout.
Ça veut dire que les trois quarts de la planète s'en fichent aussi.
Alors,
non mais attendez, si on pensait qu'il y avait pas de problème, on n'aurait pas mis sur place un plan clim. Je veux dire, on n'a pas le goût du travail inutile. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que ces vagues de chaleur peuvent être persistantes, peuvent être récurrentes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la société ne soit pas figée à cause de ça. Il y a deux impératifs. D'abord, permettre aux gens de vivre. Excusez-moi, c'est le cœur de l'engagement politique, normalement. Donc ça, c'est une priorité, et ça, c'est le plan clim. Et puis, il y a faire en sorte que la planète ne se dérègle pas climatiquement trop vite, ou même arrête de se dérégler. Et ça, ça veut dire jouer sur les échanges commerciaux internationaux, ça veut dire le localisme, parce que ça évite le transport, ça veut dire un certain nombre d'investissements. Il faut jouer sur les deux tableaux. Mais ceux qui disent « on arrête de vivre et la planète sera protégée », croyez-moi, c'est les partisans de la décroissance, c'est ceux qui veulent le droit à la paresse, ils disent « il fait chaud, allez pas bosser », bah ça veut dire une société...
Vous êtes contre le congé climatique.
Mais bien sûr, il faut arrêter maintenant avec les prétextes pour ne rien faire. Une fois encore, si les entreprises sont climatisées, si les transports sont climatisés, tout le monde pourra aller travailler. Travailler, ça veut dire créer de la richesse. Créer de la richesse, ça veut dire contribuer au système social. Donc on peut pas dire d'un côté, il faut protéger les Français, soigner les Français avec un système social, mais il faut pas aller bosser. Ouais, il y a un moment, l'idéologie verte, elle a fait trop de mal.
Attendez, je donne la parole deux secondes, mais je voudrais simplement continuer après. Je vous laisse, mes chers GG, vous inquiétez pas. Mais là, quand même, on regarde, on a des transformateurs qui ont sauté.
Oui.
On a du bitume qui a fondu dans certaines villes.
C'est vrai.
Vous avez vu? On a
des rails de 1845.
On a des rails qui datent du 19e siècle. On est obligé de dire à des. Jean Castex, patron de la SNCF, dit aux personnes vulnérables, ne prenez pas le train. Madame Pécresse dit, évitez les transports en commun si vous pouvez faire autrement parce qu'on n'est pas sûr des clims. Enfin, on est en France ou on n'est pas en France, là?
On est dans une France qui est en voie de devenir un pays en voie de développement.
Et ça, vous dites aux Français, votez pour nous et ce sera terminé.
Mais si vous savez, si on avait une baguette magique, malheureusement, ça se saurait, on n'en a pas, ça prendra du temps, mais ça veut bien dire que les investissements qui ont été faits par l'État, ça veut bien dire que les dépenses publiques et le fléchage des dépenses publiques depuis des années n'a pas été fait dans le bon sens. Il a été fait sur le court terme, il a été fait sur de la com, il a été fait pour colmater des brèches quand il y avait des graves crises, mais il n'a pas jamais été fait pour préparer l'avenir. Donc on a eu de très belles infrastructures dans le passé qui du coup tiennent encore à peu près le coup, parce que il y a 50 ans, 60 ans, eh bien les investissements étaient faits dans le sens de l'intérêt général et du progrès du pays. Or aujourd'hui, c'est plus le cas, donc il faut changer ça. Il faut revoir la liste des dépenses, la hiérarchiser autrement, et puis arrêter de faire une politique à chaque fois qu'il y a un incident ou un fait divers pour répondre à une urgence télévisuelle ou audiovisuelle.
Didier Giraud.
Moi, par contre, il y a un truc qui me gêne là dans votre grand plan. Je suis très souvent d'accord avec vous, et là je le suis encore. Par contre, il y a une vraie incohérence, c'est que vous êtes contre les énergies renouvelables. Et à un moment donné, votre position, vous faites aussi du dogme là-dessus. Et la position du RN, quand tout le monde aura un climatiseur, tout le monde aura une bagnole électrique, qu'il faudra faire tourner les data centers et l'intelligence artificielle, on va faire comment pour faire arriver de l'électricité dans la prise électrique. Moi, j'arrive pas à comprendre votre position sur les énergies renouvelables, que ça soit l'éolien ou que ça soit le solaire, parce que aujourd'hui, tous les chiffres de gens à peu près fiables sur le sujet montrent qu'à l'horizon 2050, on manquera d'électricité, y compris avec notre énergie nucléaire.
Alors, j'entends ce que vous dites. Vous parlez d'énergie renouvelable. On peut parler d'énergie intermittente. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien.
Non.
Quand c'est la nuit, il n'y a pas de solaire. Non. Or, les besoins qu'on est en train d'énoncer ensemble sont des besoins permanents, pérennes et qui touchent l'ensemble du territoire.
Bah, du coup, le climatiseur, c'est quand même quand ça fait du soleil.
Le problème, c'est que là, dans le plan climatique qui nous est proposé par le gouvernement, dans les années qui viennent, ce sera 100 milliards investis dans les énergies que vous appelez renouvelables. Ces 100 milliards, on peut très bien les flécher vers le nucléaire, qui était une énergie permanente et peu chère, ou vers des équipements. Le problème, c'est que là encore, on est victime d'une idéologie qui nous dit les éoliennes, c'est écolo. D'abord, c'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai dans la construction, c'est pas vrai dans le recyclage, et c'est pas vrai parce qu'elles viennent d'ailleurs et que donc il y a de l'énergie dépensée pour les amener en France. Mais surtout, c'est intermittent. Juste pour faire très simple, quand une énergie intermittente produit, on la fait passer en priorité. Parce que sinon, l'énergie est perdue.
Oui.
Et pendant ce temps-là, on ralentit notre production nucléaire. Ce qui fragilise nos centrales nucléaires, problème d'érosion, etc. Et donc, on est en train d'affaiblir une énergie qui est permanente et peu chère au profit d'énergies idéologie.
Ouais, enfin, avec les niveaux d'étiage, l'énergie nucléaire, elle est en train de s'éroder.
Et j'en suis très triste, mais je suis très triste que les gouvernements de gauche, sous pression des Verts, aient fermé Fessenheim à côté de chez moi en Alsace. Je suis très triste qu'on ait pris du retard et que donc maintenant, on doit prévoir de nouvelles énergies nucléaires, de nouvelles centrales qui vont coûter beaucoup plus cher que si on avait maintenu le système. J'en suis triste, on le dénonce depuis longtemps.
Mais non, mais ces épisodes de canicule, ça va fragiliser aussi le nucléaire.
Vous avez raison, donc il faut des investissements tous azimuts. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on reste les bras ballants en disant, ah bah voilà, il y a un réchauffement climatique, mais arrêtez de faire des barbecues, arrêtez d'aller travailler, arrêtez de vivre, restez claquemurés chez vous. Moi, je veux bien, j'entends Madame Tondelier qui dit, prenez un chiffon mouillé et mettez-le à la fenêtre. Non, mais... Excusez-moi, nous, on n'est pas là pour appliquer des remèdes de grand-mère. C'est bien sympathique, mais ce serait mieux d'appliquer une stratégie d'État.
Alors, Zora et Fatima, Zora Bitton.
Alors, la question, c'était un prêt à taux zéro pour installer la clim chez vous. Souvenons-nous que la prime Rénov, il n'y a pas longtemps, avait été arrêtée à cause du nombre de fraudes.
Oui.
Impressionnant, qui avait été détecté. Et donc, elle avait été suspendue et remise, elle a été remise il n'y a pas longtemps. Et en plus, pour l'obtenir, c'est un parcours du combattant.
Tout à fait.
C'est des tonnes de paperasses encore, avec des cases à cocher, l'une efface l'autre. Bon, bref. Moi, je pense que les inégalités sociales, comme disait Fatima tout à l'heure, sont réelles et que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une clim même à 600 euros. Donc oui, il faut, dans un premier temps, de toute façon, c'est l'urgence. L'urgence, c'est de faire en sorte que les gens dans les EHPAD puissent vivre décemment, que dans les hôpitaux, les personnes malades et que les enfants aient la clim, etc., etc. C'est pas aujourd'hui qu'on va se poser la question de savoir que ce qu'on va faire aujourd'hui peut produire des effets néfastes dans 50 ans, puisqu'il y a 50 ans, on disait la même chose et qu'on n'a rien fait. Donc, moi, je suis plutôt... On gère aujourd'hui le fait qu'on a de plus en plus de périodes de chaleur et qu'il est hors de question de tout fermer, de se mettre à l'arrêt, de laisser le monde continuer de vivre et de continuer à nous appauvrir parce qu'on n'a pas pu mettre des clims. Je pense qu'il doit y avoir un grand plan de révision un peu de tous les bâtiments qui accueillent du public, qu'ils soient de
n'empêche pas l'autre.
Voilà, d'accord. Et les politiques travaillent. On avait un commissaire au plan qui a servi à rien. Et là, ce qu'on veut dans cette campagne électorale, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas demain, c'est pas 2027.
C'est après-demain.
C'est je veux savoir ce que vous prévoyez pour la France. Ce que la France va être dans 20, 30 ou 40 ans. Parce que là, tout le monde nous raconte des salades pour demain. Il y a une espèce d'écurie, de clan, tout le monde vous vend n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a une grande partie des Français qui va vraiment pas voter ou voter blanc parce que il y a une décrédibilisation totale. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est quelqu'un vraiment de sérieux qui nous dise, voilà, preuve à l'appui, la France de demain. Donc, l'urgence aujourd'hui, oui, moi, je suis pour un prêt à taux zéro pour la clim, parce qu'il y a des gens qui sont dans des appartements, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, qu'il y a des gens qui sont en ville, il y a des gens qui sont dans des milieux urbains, et il n'y a pas de raison que eux souffrent, ou en tout cas que les écoles ou que les hôpitaux soient pas équipés.
Alors, Laurent Jacobelli, j'ai une vision de la France à 20-30 ans.
Mais il faut, oui, là, et je suis très heureux d'entendre ça parce qu'on en parle rarement sur les plateaux de télévision, on réagit souvent à l'actualité. La France de 20 et 30 ans, on a le choix. Soit c'est une France mondialisée qui achète ses produits agricoles en Amérique du Sud et ses produits industriels ou textiles en Chine. Une France du RSA qui regarde passer les trains et qui survit peut-être grâce au tourisme. Soit on a une France qui redevient une France industrielle. C'est pas un gros mot. Une France qui contrôle les importations qui arrivent sur son territoire. C'est pas un gros mot. Une France qui préfère consommer local qu'à l'autre bout du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une France de l'emploi. Ça veut dire une France du respect climatique et écologique. Et ça veut dire une France de la croissance. Tout cela, ce ne sont pas des gros mots. Les discours de décroissance, les discours fatalistes sur l'Europe, sur la mondialisation, eh bien, nous ont amenés là où on est. Vous savez, ce manque de vision, on en souffre. Est-ce que quelqu'un connaît, peut-être vous, parce que vous êtes très informé, le nom de notre ministre de l'écologie ? Aujourd'hui, au moment où il y a un vrai problème,
transition écologique. D'ailleurs, elle était portée disparue ces derniers jours.
C'est Madame Barbu. Dame, qui est sûrement une dame très gentille. Mais qu'est-ce qu'elle propose ? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Où elle est ?
Gentille, c'est pas un synonyme de compétence.
Je suis d'accord, mais sa compétence aujourd'hui, moi, je suis incapable de la juger parce que je ne connais pas cette dame, je ne l'ai pas vue et je ne l'ai pas entendue. Donc, est-ce qu'on continue comme ça avec des gouvernements fantoches qui n'ont pour seul objectif que de se maintenir en place et qui ne prennent aucun risque.
Non mais monsieur Jacobelli, la vraie question que moi j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce pays a besoin d'être gouverné par des ministres ? On a des gens brillants dans ce pays. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être revoir les choses et confier le pays à des gens qui savent de quoi ils parlent, à des gens qui passent dans les plus hautes fonctions de l'État pour mettre des choses en place. Parce que quand on écoute, quand on regarde le nombre de ministres qui sont passés en 50 ans, quand on compte en ratio le nombre de ministres qui n'ont servi à rien et qui pourtant sont passés, moi j'aimerais bien qu'on ait des architectes, des ingénieurs, des gens qui viennent avec une feuille de route et une mission et qu'on paye et il n'y a pas de problème pour les payer et on n'a pas besoin d'une armée mexicaine depuis 50 ans et cette armée mexicaine, elle fait qu'aujourd'hui aux grandes gueules, on parle de la clim, la veille on parle de l'IANA, trois jours avant on parle de d'autre chose, etc., etc. Parce que c'est ça la France.
Il
n'y
a pas d'efficacité,
en fait.
Alors, c'est ce que
mais
tu veux dire.
Mais c'est ça. Donc alors, en fait, on n'a pas. Moi, je suis pour une France sans ministre. On veut des gens, des techniciens, des gens compétents. Faut arrêter.
Non, des technocrates. Attendez. Réponse de Laurent Jacobelli.
Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi notre politique agricole est brinque-ballante? Pourquoi on n'a plus de politique industrielle? Pourquoi on ne sait pas répondre à ce problème climatique? C'est parce qu'il n'y a jamais eu, depuis 50 ans, de volonté politique. Ce qui manque à ce pays, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce sont des politiques, des gens qui disent « voilà ce que je veux faire ». Vous l'avez dit tout à l'heure, dans 10 ans, je veux que la France soit là. Dans 20 ans, je veux qu'elle soit là. Les Français choisissent. Et une fois que le politique est élu, il fait de la politique. Les technocrates obéissent. Non. Les administrations sont au pas. Mais c'est à eux de décider. Aujourd'hui, on a des ministres du budget qui arrivent en disant, voilà, mes fonctionnaires ont préparé un budget, je peux pas faire autrement. Eh bien, tant qu'on continue comme ça, eh bien, on va dans le mur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est du courage. J'allais dire autre chose, mais je vais pas le faire parce que c'est une émission de grande écoute. Pour dire, eh bien, écoutez, moi, sur l'immigration, je veux faire ça. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Les Français me soutiennent, je le ferai. Moi, en termes d'écologie, je veux faire ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les Français m'ont élu, je le ferai. Ce qui manque, c'est de la conviction. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ne pensent qu'à leur élection, qui nous servent pas souvent de la bouillie tiède pour ne pas avoir à décider. Nous, ce risque, on le prend.
Moi,
Pendant 40 ans, on nous a décriés et on a maintenu nos positions. Aujourd'hui, il se trouve que les Français sont d'accord avec nous. Nous ferons la politique pour laquelle nous sommes élus, mais on manque de politique.
Si vous êtes élu,
pas technocrate.
Si vous êtes élu.
Évidemment.
Bien évidemment. On va parler de justement cette élection présidentielle dans un instant. J'imagine qu'il y aura des questions aussi peut-être sur l'affaire Liane et ses conséquences. Voilà, Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, et l'invité des GG, c'est son face au GG, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, et l'invité des GG, des Grandes Gueules. On a parlé de ce que le Rassemblement National compte faire si jamais vous arrivez au pouvoir après l'élection présidentielle. Question de Fatima Hidbounoua, notre prof de français. Fatima.
Je lisais deux articles à votre sujet, c'était dans Le Parisien et je pense dans Libération, où on parle d'un RN embarrassé par deux choses. Sur le plan clim, ce qu'on vous reproche, c'est d'en parler mais sans chiffrer, et qu'apparemment vous vous refilez la patate chaude. Donc comment vous financez ce plan clim? Et dans la même lignée, on vous dit embarrassé par des édiles, des nouveaux édiles, notamment un qui a supprimé les subventions du planning familial. Moi, je veux rebondir juste sur ça, sur cette question, parce que le planning familial, c'est aussi un endroit...
Question d'abord sur le financement du plan clim, et puis après le planning familial.
Sur le financement, comment vous financez économiquement, comment ça marche?
C'est pour l'instant, et selon nos chiffrages, à peu près 20 milliards, si les choses se décroulent normalement, sur plusieurs années, hein, bien évidemment. Or, ces 20 milliards, on va les défléchir ailleurs. Par exemple, le coût de l'ADEME, qui est de plusieurs milliards par an, le coût des CE, vous savez, sur le coût de l'énergie, qui coûte à peu près 10 milliards, qui rapporte 10 milliards. Bref, on va flécher les choses autrement. On va prendre sur l'équivalent du plan vert, qui était parfois mal utilisé, pour l'utiliser mieux. Donc l'argent existe aujourd'hui, notamment pour la question écologique et la préparation du futur météo, mais pour l'instant, qui n'est pas utilisé de manière opérationnel, optimal, et que nous allons réaffecter. Vous savez, le budget, c'est ça. Hein, c'est, vous avez une
conseil
enveloppe.
De supprimer quelques offices aussi.
Oui, mais c'est prévu. J'ai parlé de l'ADEME, et ça en fera partie. Bref, une idéologie, non pas d'affichage, une écologie, pardon, non pas d'affichage et idéologique, mais une écologie utile du quotidien. Ça, c'est la première question.
Et sur la deuxième...
Sur les maires RN.
Mais c'est simplement sur le planning familial, je veux dire, pour le signal. On a eu l'affaire Liana, ici, avec cette question de libérer la parole. Pour libérer la parole, il faut aussi avoir des endroits où écouter, des gens qui sont capables d'entendre, des actions. Comment situe votre parti par rapport à ces questions sur la pédocriminalité? Qu'est-ce que vous proposez d'une façon concrète?
Il y a beaucoup de questions dans votre question. C'est-à-dire qu'on parle d'une subvention à l'association panifamiliale dans une ville et ça va jusqu'à la pédocriminalité. Je vais vous répondre
sur
tout,
sur l'écoute.
Mais serrions peut-être les problèmes parce qu'ils ne sont pas tous du même niveau, je crois, et n'appellent pas tous.
Est-ce que vous supprimerez le planning familial? Est-ce que vous êtes contre le planning familial?
Non, mais pas du tout, pas de manière générale. Simplement, lorsqu'il y a. Non, mais lorsqu'il y a localement un planning familial a oublié ses missions premières et fait du militantisme politique avec l'argent public, ça pose un problème. Nous, on a une règle de base. C'est que les impôts qui sont utilisés dans les communes sont les impôts de tous les citoyens, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, apolitiques. Et donc, les associations, elles doivent servir tout le monde. Et le planning familial a son utilité. En revanche, quand l'association se sert de sa tribune pour faire des appels politiques, pour faire des appels à l'exclusion politique, au boycott politique, alors on estime que c'est une forme de détournement de l'argent public. C'est tout. Donc là, il a répondu au cas par cas. C'est pas une politique générale, si c'est ça qui vous inquiète.
Et sur la pédocriminalité?
Sur la pédocriminalité.
Est-ce que vous êtes pour les fichiers accessibles au public?
Oui, accessibles au public, non, évidemment, mais des fichiers élargis, notamment à plus d'actes pédocriminels. Oui, bien sûr, une faciliter leur usage, parce que là on a vu dans l'affaire récente de la petite Liana qu'il n'y avait pas un recours systématique, mais derrière le problème de pédocriminalité que vous évoquez, et qui est réel, il y a un problème de justice, il y a un problème de sévérité, et il y a un problème de moyens déjà, parce que vous le savez, on a à peu près 2 à 3 fois moins de magistrats et de procureurs que les autres pays européens, donc il y a un problème et donc il faut investir, c'est à peu près 6 milliards par an, je réponds déjà à votre question.
Donc vous allez investir pour recruter?
Bien sûr, former, recruter, donner les moyens, parce qu'il y a un problème d'encombrement qui est un problème réel. Nous, on juge en France un crime à peu près en 6 ans, là où les Allemands les font l'enquête en 2 ans. Bon, soit ils sont beaucoup plus intelligents que nous, mais il n'y a pas de raison, soit on sous-investit. Bon, ça, il faut prendre la mesure de cela. Deuxièmement, il faut arrêter avec une idéologie, et c'est là que la politique intervient. C'est que le voyou, le criminel, le délinquant, le pédocriminel ne sont pas des victimes de la société ou des victimes de je ne sais quoi. Ce sont des coupables. Il faut les châtier et il faut les isoler de la société. La logique de l'excuse, la logique de la peine de substitution, tout cela doit s'arrêter. Il faut une justice ferme, et pour ça, il faut des peines planchers, il faut la perpétuité incompressible, mais il faut aussi les moyens. Je pense qu'il faut marcher sur ses deux jambes.
Gérald Darmanin a bien fait de sanctionner le substitut du procureur et de gendarmes ou pas?
Il y avait un film, je crois, qui s'appelait « Tirez pas sur le lampiste ». Écoutez, s'ils ont fait des erreurs, il faut être sanctionné, mais croire qu'on va régler le problème comme ça, c'est faux.
Et il aurait dû démissionner, Gérald Darmanin?
Écoutez, je pense que si j'avais été ministre de la Justice dans de telles circonstances, j'aurais démissionné. Je pense que c'est l'honneur d'un ministre. Quand il y a un dysfonctionnement tel, il était au courant. Son ministère était au courant. Il y avait des rapports sur son bureau. Il n'a pas tiré les conclusions avant qu'il y ait ce terrible assassinat. Donc oui, ça pose des questions de responsabilité. Vous savez, à force d'avoir des ministres irresponsables et beaucoup de juges qui font du laxisme leur doctrine, eh bien, on est dans la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes et on ne protège plus nos enfants. Donc ça ne peut pas durer. Juste un mot. Le scandale... parisien
du périscolaire.
Il y en a un des individus qui a été attrapé, 9 agressions sexuelles sur des enfants de moins de 5 ans, la justice demande 1 an de bracelet électronique. Bah, excusez-moi, là c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de doctrine.
Oui, donc il devrait être derrière les barreaux.
Je pense, oui.
L'élection présidentielle arrive dans un mois, le Rassemblement National saura qui est son candidat, parce que c'est le 7 juillet.
Oui.
Donc tout est prêt, le scénario B comme Bardella, il est prêt aussi si Marine Le Pen est empêchée, parce que c'est dans 15 jours.
C'est dans 15 jours et évidemment on attend le verdict des juges avec impatience, avec quand même une petite inquiétude, c'est que nous sommes dans une démocratie où le candidat à l'élection présidentielle du premier parti de France, donné dans les sondages potentiellement vainqueur, va être décidé par des juges. Bon, c'est un modèle unique qui moi me heurte en tant que républicain et démocrate. Une fois que j'ai dit ça... c'est la situation.
Non, mais Bardella sera votre candidat si Marine Le Pen est empêchée, parce que j'ai lu que depuis l'affaire du Grand Prix de Monaco, ça tiquait au Rassemblement National. Vous disiez, sous couvert d'anonymat, Jordan Bardella, il a la grosse tête, c'est plus le même.
Mais qui a dit ça?
Je lis les articles comme vous.
Soit la personne qui a dit ça a le courage de le dire et elle donne son nom. Alors à ce moment-là,
il a la grosse tête, Bardella.
Il vous saoule
Bardella avec sa princesse et son grand prix Monaco.
Il faut arrêter les bêtises. Enfin, une fois encore, Jordan Bardella, Marine Le Pen travaillent sur un programme. Oui, en fait. Moi, ce que fait, excusez-moi, j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect et d'admiration pour Jordan, mais ce qu'il fait de ses week-ends me regarde pas. Voilà, tout simplement. Moi, la question que je me pose quand je vois Jordan,
c'était pas une erreur Monaco.
Mais il fait exactement ce qu'il veut.
Ma question, c'était une erreur ou pas?
Est-ce que c'est une erreur d'aller voir un sport? Enfin, je comprends même pas votre question, en fait, pour être honnête.
Parce que quand il a dit des marches blanches, il y en a tous les jours.
Mais vous savez bien pourquoi il a dit ça? Il a dit ça, évidemment, en le regrettant. On est dans une France aujourd'hui où il y a des horreurs chaque jour, où il y a des crimes, des assassinats, des viols, et donc des gens font des marches blanches. C'est terrifiant qu'on ait des marches blanches de manière aussi fréquente. Ce qu'il faudrait, c'est une France où l'action ne soit pas la marche blanche. On peut comprendre que la famille et les proches le font, mais c'est un gouvernement qui agit pour que ça n'arrive plus. Alors. C'est ce constat qu'il faut faire. Moi, je veux bien regarder l'emploi du temps de nos futurs candidats à la présidence ou au poste de Premier ministre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit les vrais problèmes. 3500 milliards de dettes, 500 000 de migrants supplémentaires légaux chaque année, 1 million de migrants illégaux, un pouvoir d'achat en berne, une croissance en berne, une France sans avenir. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas des sujets plus sérieux? Je viens de passer 3 minutes à parler de Formule 1.
En fait, le week-end dernier,
il y avait le meeting de la France insoumise. Oui. Enfin, c'était un rassemblement place de la République. Il a notamment été question, bien sûr, de cette future élection présidentielle. Puis, lors d'un échange avec les journalistes, Jean-Luc Mélenchon a dit le racisme sera au cœur de la prochaine élection. Sachez pour qui vous devez voter pour empêcher le racisme d'avancer. Ça a été une des discussions qu'on avait ici dans les grandes gueules. Et ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon a fait réagir l'une de nos chroniqueuses, Joëlle Dagosséry.
Oui, oublié la moitié de l'histoire quand même.
Attends.
J'aimerais bien intervenir parce que
une seconde, Zora. Oui. Joëlle Dagosséry. Voilà comment elle réagissait à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-la.
Je peux te dire qu'il y a toute une partie des Français issus de l'immigration dont on dit qu'ils seraient normalement de droite si la droite n'était pas aussi raciste. On peut me raconter toutes les fables. Si je suis quelqu'un qui n'est pas raciste, je ne vais pas mettre un seul bulletin de vote pour Bardella. C'est simple et net. Parce que de toute façon, je ne vais pas cautionner Bardella. Parce qu'en fait, tout d'un coup, moi aussi, j'ai peur pour ma sécurité. Moi aussi, je veux que la France redevienne forte, etc. Mais je ne suis pas raciste.
Oui, et du coup, ça a fait écho à ce qu'on a pu entendre dans une boîte de nuit. On a entendu des jeunes dire Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Donc, voter Bardella, c'est voter raciste?
Oh là là, mais vous faites un grand mix n'importe quoi. Non. Je vais vous répondre. Pour les jeunes dans la boîte
vous
de
allez
nuit.
Libérer le racisme, la parole raciste sera libérée.
Ah, il va dire oui au pénal, ouais.
L'accusation est tellement grave qu'il faut me laisser au moins 30 secondes pour vous répondre. Sur ce qu'on dit, les jeunes dans les boîtes de nuit, moi je ne les connais pas, ces jeunes, je ne sais même pas s'ils sont RN ou pas RN, s'ils connaissent Marine.
Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir.
Ok. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Il y a en France des lois. Ouais. Le racisme est interdit.
Se filmer, le publier.
Le racisme est interdit. Donc j'espère qu'il y aura des sanctions parce que nous sommes un parti qui défend le droit et qui défend le fait que chaque citoyen français soit protégé, notamment des attaques, qu'elles soient verbales ou physiques, racistes. Mais je dis bien tous les Français. Il n'y a pas un racisme chic et un racisme honteux. Il n'y a pas un antisémitisme acceptable et un antisémitisme condamnable. Le racisme et l'antisémitisme sont condamnables en eux-mêmes. Et donc, un parti politique comme la France Insoumise, qui explique qu'il faut des maires noirs parce que la population est noire, c'est du racisme. Voilà, un parti politique qui nous explique que les Français de confession juive sont les alliés d'Israël et sont des criminels, c'est de l'antisémitisme. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Le racisme, quand on aime la nation, ça n'existe pas.
Non, mais tout devient une fable.
Honnêtement, c'est trop important. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais c'est vraiment trop important. Nous, on dit, la priorité nationale, c'est pas la priorité raciale, c'est pas la priorité des origines, c'est la nation. À partir du moment où vous adhérez à la nation, votre couleur de peau, votre origine, je suis italien, votre religion ou non-religion ne compte plus du tout. Qui aujourd'hui distingue les individus par leurs origines en disant vous êtes d'origine immigrée, donc la France est raciste et elle ne vous aime pas? C'est Mélenchon. Qui aujourd'hui surfe sur les religions, va draguer des communautés et stigmatise d'autres communautés? C'est Mélenchon. Donc je comprends votre cri de SOS contre le racisme et l'antisémitisme. Je le partage, mais vous trompez pas.
Mais moi, je voudrais juste.
C'est fini.
Non, je voudrais juste clarifier quelque chose.
T'as 20 secondes, hein.
J'ai 20 secondes. La France insoumise, ok, antiraciste, mais l'antisémitisme pour la France insoumise, ça passe crème. Voilà, ça passe crème. Il y a, ça pose pas de problème à certains.
Mais on est d'accord.
Bah ouais, mais et moi ça me gêne.
Mais moi aussi ça me gêne. Et c'est pas parce que ça vient de gauche que c'est noble. L'antisémitisme, c'est dégueulasse, d'où que ça vienne. Voilà.
Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et député de Moselle. Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Quelle heure est-il ? Il est midi moins 25. Je lance le top.
Le top quoi ? Les grandes gueules.
Le top prime de match. Le top prime de match, bien sûr. Inscription, c'est parti pour 10 minutes. La prime de match, c'est 40 000 euros ce matin à gagner en pleine Coupe du Monde. Et RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. Vous envoyez but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que vous êtes inscrit, vous ferez peut-être partie de ceux qu'on appellera comme ça, de manière aléatoire, au hasard. Et au moment où vous décrocherez, il faudra donner le montant de la prime de match. 40 000 euros. Si elle n'est pas gagnée aujourd'hui, elle grossira de 500 euros à chaque but marqué avec les matchs ce soir. Imaginez jusqu'où ça peut aller. Qui sait ? C'est 67 500 euros qui ont été gagnés la semaine dernière. Là, on en est à 40 000. Envoyez but par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Vous avez 10 minutes devant vous. Dans un instant, dernier sujet de discussion. De plus en plus de jeunes diplômés retournent dans leur région après leur étude. Un retour aux sources, bienvenue ou pas. Vous venez en parler avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est midi moins 20, il est 11h42 précisément, ce qui veut dire qu'il vous reste 4 minutes pour la prime de match, 4 minutes pour envoyer but par SMS au 732-16 et faire partie des inscrits, des centaines, des milliers d'inscrits qui pourront être appelés et tenter de gagner les 40 000 euros. Attention, la prime de match, c'est 40 000 euros là, alors on se parle. Si dans la journée vous avez un appel et que vous ne donnez pas le montant des 40 000 euros, bah ce soir elle grossira de 500 euros à chaque but marqué encore pendant les matchs de Coupe du Monde. Allez-y, envoyez but par SMS au 732-16. On attaque maintenant notre dernier sujet de discussion. C'est une étude Viavoz qui est relayée par nos confrères du Figaro à propos des jeunes et de leur parcours étudiantin. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a 7 jeunes sur 10 qui quittent leur ville, qui quittent leur région, qui quittent leur endroit pour aller vers des études supérieures. Mais ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'après leurs études dans ces villes, plus ou moins loin de chez eux, ils sont à 40% à revenir dans leur région ou à souhaiter revenir dans leur région. Dans la majorité des cas, c'est retrouver la proximité avec leurs proches, se réenraciner. Alors c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'il y a une espèce de retour. Alors retour au terroir, ça sous-entend que tous ceux qui sont partis, c'est un retour à la campagne ou pas. Non, c'est plutôt un retour aux racines. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? 32-16 pour en parler avec les gens, avec les grandioles, Fatima.
Ben moi, je les comprends vraiment parce que j'ai quitté Poitiers pour venir dans le 91 et ensuite dans le 93. Et mon objectif, je me disais, quand j'aurai des enfants, je retournerai plutôt du côté de Poitiers parce que pour moi, c'était le meilleur endroit pour élever des enfants. Déjà, rien que l'immobilier, il y a plein de choses, de vivre à la campagne, la relation, enfin, il y a plein de choses. Je n'ai pas pu le faire parce que, étant professeur, ça dépend du nombre de points. Et moi, en plus, j'avais accumulé des points, mais je les ai perdus. Donc, je suis un peu coincée pour retourner comme ça. Et on retrouve, finalement, c'est pas vieux, c'est une vieille histoire. On retrouve le poème de Dubélé. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ok, mais la suite, c'est... Et puis, retourner, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Heureux celui qui part, mais qui peut aussi revenir. Vous voyez, il y a ce départ, le voyage, on rencontre, c'est des racines et des ailes, en vrai. L'idée d'aller voir ailleurs, de comparer, à un moment, on peut aimer aussi ce qu'on a quitté.
On a Sylvie qui veut intervenir dans les GG. Bonjour Sylvie, qui nous appelle d'Agen. Cette étude, du coup, ça vous renvoie à votre fille ?
Ah oui, alors là, si vous saviez comme je suis heureuse. Alors ma fille est partie parce qu'elle voulait sortir de sa zone de confort il y a 3 ans. Donc elle est partie à Menton.
Elle a fait sud-ouest, plein de sud-est. Oh, d'accord.
C'est ça. Donc elle est partie à Menton faire ses études d'infirmière, qu'elle finit dans 3 jours et elle revient début août. Très heureuse parce que, en fait, si vous voulez, elle est partie. Ce qu'elle va retrouver, c'est, elle est chez elle dans le Lot-et-Garonne. Elle a ses amis, elle a sa famille. On mange bien, on vit bien. Les gens sont accueillants. La vie est moins chère. Et donc c'est un bon.
Mais elle revient parce qu'elle va pouvoir travailler là-bas aussi.
Ah ben ça y est, elle a déjà trouvé du travail en tant qu'infirmière.
C'est quand même ça.
J'imagine, c'est pas le travail qui manque.
Le
effectivement.
Nerf de la guerre, donc, il est quand même là.
Pour elle, c'était les études d'un côté et ensuite dès que je peux, je reviens à la maison, quoi. En fait,
voilà,
c'est ça.
C'était tout à fait ça. C'était les études, bon, sortir de sa zone de confort parce que c'est une grande sportive, donc elle a fait beaucoup de marches et tout ça. C'est vrai que le décor à Menton est très beau, mais sorti de là, voilà, la vie pour un étudiant, c'est pas possible. Les gens sont spéciaux à Menton, on va dire.
Ah bon?
Oui, c'est très spécial.
Elle aurait dû continuer à Nice.
C'est la haute bourgeoisie, quand même.
Ah bon, à Menton?
Ah oui.
Il y a sûrement une partie de Menton qui est la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, je sais pas, mais en plus, elle est sportive, elle a tout l'arrière-pays mentonnais, elle a l'arrière-pays niçois, elle a tout ce qu'il faut, elle a les Alpes-Maritimes à sa disposition. Voilà. Mais elle préfère revenir à Agen.
Eh oui, elle revient à Agen. Ben oui, il fait bon vivre hein, dans l'Haute-Garonne. Hein.
Sûrement. Il fait très chaud en ce moment, mais il fait bon vivre.
Oui, il fait très chaud, oui.
Alors Didier, qu'est-ce que tu en penses de cette étude? Et merci à Sylvie d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne
journée.
Je suis un peu dubitatif sur les conclusions de l'étude. Je pense quand même que tout ça, c'est lié au travail. Moi, je vois plus de jeunes qui partent du village et qui restent à la capitale régionale, minimum, plutôt que des jeunes qui reviennent au village, quoi. Voilà. C'est quand même ce que je vois, mais c'est lié au travail. Alors après, aller étudier à la capitale et revenir dans sa région d'origine, si t'as dû trouver du boulot dans la grande ville d'à côté, oui, c'est certainement un phénomène, mais je vois plus de jeunes qui s'en vont que de jeunes qui reviennent. Voilà. C'est une constante et ça met en péril mon métier. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup des fois d'indépendance alimentaire de la France. Une des raisons pour laquelle on perd du terrain sur l'indépendance alimentaire, c'est l'installation des jeunes en agriculture. Et dans ces jeunes qui reviennent au pays tel que c'est décrit, je pense que c'est aussi des jeunes qui créent leur propre activité.
Voilà.
Les quelques cas que j'ai en tête, c'est des jeunes qui créent une activité. Mais quand tu vis dans un village rural un peu désertifié, l'activité salariée est inexistante.
Mais cette tendance, voilà, elle est facilitée notamment par les nouvelles technologies.
Oui, c'est ça.
Le fait que tu peux revenir t'installer chez toi, il n'y avait pas forcément tout le travail nécessaire, mais tu peux être derrière ton ordinateur et puis partir simplement un ou deux jours, comme tu dis, à la capitale régionale ou ailleurs, quoi,
Il y a une vraie tendance chez les jeunes de retrouver une qualité de vie. Et c'est vrai que avoir des enfants, vivre dans une maison, avoir un jardin, s'occuper de son jardin à un prix nettement inférieur à ce qu'on peut avoir dans les grandes villes, c'est un rêve, c'est une aspiration de beaucoup de jeunes. Peut-être pas à 18, 20 ans quand ils sont au cœur de leurs études et qu'ils ont envie de rencontrer des potes, d'aller à des expos, etc. Mais voilà, sauf que, là encore, on reparle de la France pendant 50 ans, la question de l'emploi, c'est-à-dire que il y a énormément de zones rurales en France non exploitées et sur lesquelles les jeunes pourraient largement s'installer. Le bâti et le patrimoine abandonné dans des villes où personne ne peut aller habiter est incroyable. Il y a des hôtels particuliers, des maisons de village, personne n'en veut, etc. Mais comme on n'a pas construit une France qui est pas très grande, d'ailleurs, la France c'est pas le Brésil, qui est pas très grande, on a supprimé les transports, on a supprimé
les liaisons transversales,
les liaisons, etc. Tout est fait
en jacobin.
Voilà.
En France,
et donc, comme on n'a pas industrialisé, décentralisé, mis de l'économie partout sur tout le territoire, et ben ça dissuade, comme tu dis, il y a pas de travail, j'y vais pas. Mais si demain on construisait tous ces endroits, mais il y a plein de jeunes qui iraient y vivre demain.
Mais ça, on est d'accord sur le potentiel.
Voilà.
Après, derrière
ça, je les comprends.
Dans les jeunes ménages qu'il y a autour de chez moi, enfin, je suis désolé, les pavillons, je vois plus le robot tondeuse que des mecs qui arrosent des salades et des tomates, quoi.
Ah, des tomates.
Non, c'est une légende.
Simon, bonjour.
C'est une légende, ça.
Bonjour, Simon. Éleveur de vaches du côté de la Motte d'Aveillans, dans l'Isère, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et vous êtes revenu, vous?
Ah, moi je suis revenu, oui, après les études d'ingénieur et puis travailler dans l'ingénierie en région parisienne pendant plusieurs années, je suis revenu pour reprendre l'exploitation agricole familiale. Mm-hmm. Et j'arrose mes salades, hein, contrairement à ce que tu disais.
Pourquoi vous êtes revenu alors?
Vous êtes le parfait contre-exemple.
Oui, voilà, je pense qu'il faut quand même quelques contre-exemples. Je suis revenu pour deux choses, reprendre voilà un héritage familial et puis perpétuer, on va dire, le métier, et mais également aussi pour un cadre de vie en pensant à mes enfants, de grandir dans des conditions à la campagne qui sont quand même bien plus, je pense, bien plus agréables pour des enfants dans la nature, d'avoir effectivement un jardin, tout ce qu'il faut pour grandir dans de belles conditions, quoi.
D'accord. Donc pour vous, rester en ville, c'était inconcevable.
Déjà de base, être en ville, c'était déjà difficilement concevable, mais pour certains métiers, effectivement, c'était on n'avait pas vraiment le choix.
Justement, autour de vous, est-ce que vous voyez une nouvelle génération qui vient se réinstaller dans le coin, pas forcément en agriculture, mais qui revient simplement autour de vous, l'Isère ou pas?
Oui, j'en vois. Oui, effectivement, je pensais pas à la base qu'on puisse avoir beaucoup de jeunes qui viennent s'installer, mais il y en a effectivement qui viennent de régions parisiennes, qui sont enseignants, qui recherchent un
nouveau cadre de vie, quoi, en fait, c'est ça.
Pour eux et leurs enfants, quoi.
Merci Simon d'avoir été avec nous. Bonne journée. Vous connaissiez Didier Giraud, vous connaissez quand même un peu ou pas, non?
L'éleveur
de vaches entre confrères.
Non, je le connais uniquement à la radio, mais on se connaît pas personnellement, non.
Et vous voyez, ça fait 3 heures que je suis ici, il est grand temps que je rentre chez moi.
Je comprends.
Salut Simon, merci d'avoir été avec nous dans les GG. Merci à tous pour ces 3 heures de discussion. On se retrouve demain, bien évidemment, entre 9h et midi. Demain, avec Olivier Truchot sera de retour. Et nous serons avec la grande gueule du Parti communiste, Fabien Gay, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, avec Flora Gebali, Charles Consigny et Jean-Loup Bonamy. Bonjour, ma chère Estelle Denis.
Bonjour Alain, bonjour les GG. On va évidemment, dans Estelle Midi, parler de la canicule. Et on se posera cette question: interdire le travail en extérieur de 13 à 21 heures, pour ou contre? En fait, c'est Jean-Pierre Farandou qui dit que il faut qu'il y ait du bon sens, en fait, et que les chantiers peuvent s'arrêter entre 13h et 21h. Mais il y a d'autres travaux en extérieur, quand vous êtes serveur ou encore quand vous êtes livreur. Est-ce qu'il faut arrêter le boulot entre 13h et 21h? On vous pose la question dans un instant. On va parler de ce qui se passe au Japon. Le Japon qui crée une classe ultra luxe dans ses trains. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France? C'est une classe avec des cabines privées fermées.
Nous, on voudrait qu'il roule déjà.
Du wifi qui fonctionne.
Il marche, oui.
Donc ça, c'est hyper sympa. Des déjà, sièges extra larges, un petit service de restauration. Est-ce que vous aimeriez avoir accès à ça en France? On en parlera à midi et demi. On parlera du début des soldes également. Est-ce que c'est toujours un moment important pour vous, les soldes? Alors, les magasins sont climatisés, donc ça peut être sympathique d'aller faire les soldes cet après-midi. Mais avec la concurrence d'Internet, on va se demander si vous faites encore les soldes. Et puis, bad buzz, tendance culinaire, standard physique, est-ce qu'on donne trop d'importance aux réseaux sociaux? Là, par exemple, il y a la banane isotherme Picard qui est en rupture de stock. Elle a été mise en vente il y a moins d'une semaine. Elle est en rupture de stock parce qu'il y a eu un buzz.
La banane isotherme.
La banane isotherme.
Ah oui, je l'ai vu. Oui.
Elle est sympa.
Je l'ai vu.
Exactement. Mais à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, elle est en rupture de stock. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils nous disent ce qu'il faut acheter, etc. Et il y a plein de trucs qu'on n'aurait jamais acheté et qu'on achète parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on leur donne trop d'importance? On en parlera à 14h. Et puis.
Le tu préfères.
Le tu préfères.
Ah.
On va parler de fête. Tu préfères faire la fête le vendredi soir ou le samedi soir?
Ah, vendredi soir ou samedi soir? Moi, je dois avouer que je suis passé vendredi soir.
Ah, mais moi aussi, bien sûr que oui.
Je suis passé vendredi soir.
D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de toi de samedi matin. Oui. C'était pas mal vendredi soir.
Je pense que c'est de l'IA.
C'est de l'IA.
Non, mais t'as 2 jours pour t'en remettre, en fait.
Ouais, c'est vrai. Ben ouais.
Passer un certain âge.
Et ce qui te permet, le samedi soir, de faire un complément. Mais sans que ce soit la fête du vendredi soir.
Ouais. Et puis ça te permet d'aller courir
le
dimanche.
Une autre doctrine.
Parce que si tu sors le samedi, tu peux pas aller courir le dimanche.
Tu quoi? Une autre doctrine. C'est beaucoup plus rare que vous. Très très rare que. Mais c'est du vendredi soir au lundi soir.
Ah oui.
Que tu fais la fête.
Ah, ça décroche.
Ça décroche plus rarement. Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16.
Merci.